Voilà, nous sommes aujourd'hui le troisième dimanche de l'Avent. Qu'est-ce que c'est que l'Avent ? C'est une période, le mot vient du latin adventus, qui veut dire l'arrivée, la venue. C'est le temps pendant lequel l'Église, d'abord c'était l'Église catholique, mais se prépare à la fête de Noël, à l'arrivée de la naissance du Christ, de notre Sauveur. Ce temps de l'Avent, c'est une période sombre, parce que les jours sont courts, parce que, effectivement, on arrive au solstice d'hiver et que les nuits sont beaucoup plus longues que les jours. Et c'est une période sombre, particulièrement cette année, pour beaucoup de gens, à cause de la pandémie du coronavirus. Et ça ajoute à ce côté sombre de cette période. Cette période, elle est marquée par les quatre dimanches qui précèdent Noël. Alors vous avez peut-être chez vous des calendriers de l'Avent ou une couronne de l'Avent avec quatre bougies. Et le premier dimanche, on allume la première. À partir du deuxième, la deuxième bougie, et ainsi de suite, jusqu'à la quatrième, et la lumière va en augmentant. Chaque dimanche rend cette couronne plus lumineuse. Aujourd'hui, troisième dimanche, à Noël, ce sera en fait encore plus lumineux, mais d'une toute autre lumière que celle des bougies, parce que à Noël, effectivement, nous célébrons la naissance, la venue du Christ. Et c'est ça la grande lumière. C'est ça la grande lumière. Dans Matthieu 4, 16, on lit ceci, et Matthieu cite Ésaïe, « Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. » Et Jean précise, Jean 1, 9, « C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Jésus est appelé et considéré comme la lumière par excellence. Alors certes, Jean continue dans son chapitre 1, « Certes, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. » C'est vrai que les contemporains de Jésus étaient nombreux à ne pas recevoir du tout ce que Jésus voulait leur donner. Mais il y a une exception, il y a des exceptions. Vous êtes de ces exceptions, puisque j'en dis, à tous ceux qui l'ont reçue, et on peut encore la recevoir aujourd'hui, cette lumière du Christ, à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom et qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. En recevant la lumière du Christ, en recevant Jésus, nous recevons Dieu, nous recevons une nouvelle nature. C'est comme si nous naissions de nouveau avec un nouveau Père, le Père céleste, Dieu lui-même. Alors oui, nous nous préparons à fêter Noël, même si ce sera spécial cette année. Ce sera spécial cette année parce que, bon, pour les chrétiens, Noël, c'est en principe pas tellement les achats, pas tellement les échanges de cadeaux sous le sapin, et davantage la fête de la naissance de notre Sauveur. Mais les injonctions sont tellement fortes dans la société d'aujourd'hui qui a remplacé la lumière du Christ par les lumières dans les rues, par les lumières qu'on met devant les maisons où ce sont tout à coup des cerfs et des Pères Noël qui s'éclairent et qui font de la lumière. Ce n'est pas la lumière du Christ. Hein. On a remplacé la lumière du Christ par toutes sortes d'enseignes lumineuses, flashy ou pas, mais on n'est pas vraiment dans le même registre. Alors, la fête, on célèbre la naissance de notre Sauveur. Alors, il y aura des fêtes en famille, il y aura des cadeaux, mais le plus grand cadeau, vous avez compris, c'est Jésus. J'ai compris qu'il était interdit maintenant de chanter en groupe, sauf dans les maisons, à Noël peut-être, et dans les classes où on enseigne le chant. Sinon, les dernières prescriptions du Conseil fédéral interdisent de chanter dans la rue, en groupe, ou même à titre... Ici, on ne pourrait pas chanter. Il n'y a qu'une personne qui a chanté tout à l'heure pour tenir compte de cette prescription. C'est dur. Et il y a tous ces chants de Noël. Puis il y en a un auquel j'ai pensé en préparant ceci, c'est, vous connaissez tous, « Il est né le divin enfant », joué au bois, résonné musette. Et puis, il y a un couplet qui commence par « Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. » Et c'est cette ligne, c'est cette partie-là du chant qui m'a donné à réfléchir. Et je vais parler aujourd'hui, au fond, de la manière dont Jésus, dont Jésus-Christ, a été annoncé par les prophètes. Et je vais prendre trois exemples. Le premier exemple, je le prends chez le prophète Ésaïe. On l'a déjà rencontré tout à l'heure, mais chez lui, il y a beaucoup de passages messianiques. Il y a beaucoup de passages dans lesquels il annonce la venue du salut sous la forme du Messie. Et je vais m'arrêter à l'un d'entre eux, c'est au chapitre 35, les versets 3 à 10. Alors, tous les versets n'ont pas la même importance par rapport à ce que je vais développer, mais je les lis quand même tous parce que il fait bon proclamer la parole de Dieu. Fortifiez les mains affaiblies et affermissez les genoux flageolants. Dites à ceux qui ont le cœur battant, fortifiez-vous. N'ayez pas peur. Voici votre Dieu, elle viendra la vengeance, la rémunération de Dieu. Il viendra lui-même pour vous sauver. Alors, les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Alors, le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet lancera des cris joyeux. Oui, de l'eau jaillira dans le désert et des ruisseaux dans la plaine aride. La terre brûlante deviendra un étang et la terre aride se changera en source d'eau. Dans le repaire qui servait de gîte au chacal pousseront des roseaux et des joncs. Il y aura là une route, un chemin qu'on appellera chemin de la sainteté. Aucun impur n'y passera. Il sera réservé pour eux lorsqu'ils suivront ce chemin. Même les fous ne pourront pas s'y égarer. On n'y croisera aucun lion. Aucune bête sauvage ne le gravira. Aucune ne s'y trouvera. Ce sont les rachetés de l'Éternel qui y marcheront. Ceux que l'Éternel aura libérés reviendront. Et une joie éternelle couronnera leur tête. Ils connaîtront la gaieté et la joie, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça ne s'est pas produit. On n'en est pas là. Non, on n'en est pas là. Parce qu'il y a différents temps d'accomplissement des promesses de Dieu. Et je crois que pour nous, pour notre temps, il faut déjà insister sur les promesses qui sont accomplies et que le Christ a accomplies dans son ministère, les promesses de salut, de rachat, de guérison, parce qu'on les retrouve aussi dans d'autres textes prophétiques de l'Ancien Testament. Par exemple, dans le psaume 146, c'est mon deuxième exemple, le psaume 146. Et là aussi, je vais vous le lire en entier, mais vous allez voir qu'il y a des échos qui reviennent par rapport à ce que j'ai lu tout à l'heure. Louez l'Éternel, je louerai. Loue l'Éternel, mon âme. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne placez pas votre confiance dans les grands, dans les hommes qui sont incapables de sauver. Leur souffle s'en va. Ils retournent à la terre et leur projet meurt avec eux. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Il a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il protège éternellement la vérité. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les prisonniers. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il fait dévier la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Il est ton Dieu, Sion, de génération en génération. Louez l'Éternel. Vous voyez, on retrouve les opprimés, on retrouve les prisonniers, ceux qui sont courbés. Il y a un parallèle avec le passage que j'ai lu dans Ésaïe tout à l'heure. Alors, est-ce que ces promesses sont vraiment accomplies, celles-là ? Un autre prophète s'est vraiment posé la question. Mais est-ce que c'est vraiment accompli ? Et pourtant, cet autre prophète, on pourrait dire qu'il était aux premières loges pour savoir si c'était le cas, parce que c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, mon troisième exemple. Jean-Baptiste, à ce moment-là, il est en prison et il envoie ses disciples auprès de Jésus pour lui demander, enfin, est-ce que c'est toi celui qui doit venir ou bien est-ce qu'il faut encore en attendre un autre ? Je lis ce passage dans Matthieu 11, à partir du verset 2. Or, dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait Christ. Il envoya deux de ses disciples lui demander : Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? Jean leur répondit : Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. Cette réponse de Jésus, elle vaut la peine d'être relue. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Et puis, là, il y a tous les miracles que Jésus a faits déjà dans son ministère, grâce auxquels les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ce sont des signes, des miracles, miracles et signes, c'est à peu près le même mot, qui attestent, qui garantissent que les promesses correspondantes qu'on a lues dans Ésaïe ou dans les psaumes sont accomplies à ce moment-là. Alors ça peut nous surprendre que Jean-Baptiste pose ça parce que Jésus dit de lui que parmi les hommes, il n'y en a pas existé de plus grand. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Ces promesses, Jésus les a accomplies et puis, en y réfléchissant, je me suis dit, mais elle devrait continuer à être accomplie. Parce qu'au fond, c'est la tâche que Jésus a confiée à ses disciples, à l'Église, faire les œuvres que lui-même a faites, et qui sait même de plus grandes. Et là, la question que je dois me poser, est-ce que notre foi, est-ce que ma propre foi est à la hauteur de cet appel, de cette tâche ? Et ça, c'est une, une question que je vous confie aussi, parce qu'au fond, on veut tous, on voudrait tous, prier et voir beaucoup de guérisons, des résurrections, d'autres miracles. Si ces promesses, Jésus les a faites, c'est que, et si on le croit, il faudrait peut-être mettre notre foi davantage en action et y aller avec la force et la foi que nous avons pour qu'elle augmente. Et puis, il y a les autres promesses, celles qui paraissent plus lointaines, celles qui ne sont pas accomplies. Il y a la promesse du retour du Christ. Alors, c'est pour quand ? Ça fait longtemps que ce retour est promis. Eh bien, dans Jacques 5, à partir du verset 7, il y a une recommandation qui correspond à notre situation. Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui, jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi, soyez patients, affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Le retour du Seigneur est proche, moi je ne sais pas quand il va venir, si c'est la semaine prochaine ou dans 1500 ans, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que dans 1500 ans, je ne serai plus là. Dans 50 ans non plus. On va tous mourir. Et la mort, c'est aussi un rendez-vous avec le Seigneur. Et donc, on peut se dire, attendons le retour du Seigneur, alléluia s'il revient avant, mais nous allons être bientôt dans une situation où c'est nous qui retournerons au Seigneur. Et là, j'espère que je serai dans une bonne situation, que je ne serai pas trop honteux ce jour-là, devant lui. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés, continue Jacques. Voici que le juge se tient à la porte. Mes frères et sœurs, prenez pour modèle de patience, dans la souffrance, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous disons heureux ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Pas oublié, le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Alors je crois que nous n'avons pas encore tout vu et que les promesses qu'on a vues dans Ésaïe, qui ne sont toujours pas accomplies, elles sont, je pense, pour après le retour du Seigneur. Ce sont des promesses dont l'accomplissement doit encore venir. Le loup et l'agneau qui brouteront ensemble, on n'a pas encore vu ça. Et là, je crois qu'il y a quelque chose, c'est dans Ésaïe 65, puis dans mes notes, je crois que ce passage a un peu sauté loin de là, mais il y a ce tableau où il imagine effectivement le loup et l'agneau, le lion qui est tout tranquille, et le serpent qui mange de la poussière tranquillement. Il n'y a plus aucun danger. Les bêtes sauvages ne sont plus sauvages. C'est comme avant la chute. Les animaux sont bien. Les animaux ne sont plus carnivores. Il y a autre chose qui se passe. C'est un tout autre ordre. C'est les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Je pense que c'est ça qui est promis là. Nous pouvons attendre la réalisation de ces promesses en confiance parce que les promesses qui prédisaient la venue du Christ ont été accomplis. Il y a eu des accomplissements des prophéties. Et si des prophéties de ces prophètes-là ne sont pas encore accomplies, c'est que c'est encore à venir. Nous pouvons l'attendre en confiance sans connaître le temps où il aura lieu le retour de Jésus, parce que Jésus est venu, comme l'annonçaient les prophètes, depuis plus de 4000 ans. Nous attendions cet heureux temps. Ainsi donc, nous qui sommes maintenant dans le temps de l'Avent, celui que nous vivons maintenant dans l'attente de la fête de Noël, le 25, pour célébrer la venue de Jésus dans le monde, nous pouvons nous réjouir du grand salut qu'il nous a apporté. Nous pouvons mettre notre foi en action pour que son Église, qui est son corps, c'est dit dans la parole, l'Église est son corps. Ça veut dire qu'un corps, ça sert à agir, ça sert à bouger, ça sert à être présent. Si l'Église, c'est son moyen d'agir sur terre maintenant, il faut que son corps, son Église, fasse son travail avec une foi à la hauteur du défi de faire même les mêmes œuvres que celles du Christ pour la guérison, pour le salut, pour l'annonce de la bonne nouvelle aux pauvres. Ça, c'est ce que nous pouvons faire dans le cadre de cet avant Noël. Mais on se rend compte qu'il y a un plus grand avant, celui qui précède la réalisation des toutes grandes promesses comme le retour du Christ, comme les nouveaux cieux, la nouvelle terre, une vie différente, une vie pour les élus. C'est ce que j'appellerais un grand avant, puisque nous sommes avant cette période-là, à coup sûr. Mais c'est quelque chose que nous pouvons aussi attendre et espérer pour plus tard. Mais aujourd'hui, faisons le travail d'aujourd'hui, tout simplement. Alors je vous souhaite un bon avant et un très joyeux Noël, puis une bonne année aussi pendant qu'on y est. Parce que, voilà, c'est ça notre défi. Et c'est clair que, comme beaucoup de gens, moi je me sens insuffisant par rapport à un tel défi. Mais c'est ce que je comprends de ma lecture de la parole. Alors je dois le dire aussi. Et je nous encourage à entrer pleinement dans la réalisation des promesses du Seigneur. Je vais prier. Père Céleste, nous bénissons ton nom. Nous te remercions pour ta parole. J'ai transmis à mes frères et sœurs ce que j'ai compris que tu me mettais à cœur pour aujourd'hui. Cette histoire de l'avant, des promesses que les prophètes ont écrites il y a bien longtemps, qui ont été réalisées avec la venue de Jésus, et ces grandes promesses qui sont encore à venir. Et Seigneur, nous voulons te faire confiance dans les petites et dans les grandes choses. Nous voulons te faire confiance, demander que tu augmentes notre foi afin que nous puissions la mettre en œuvre et manifester les œuvres que tu veux que nous pratiquions parce que tu les as d'avance préparées pour nous. Nous bénissons ton nom, nous bénissons nos frères et sœurs, nous voulons rester patients et nous voulons traverser les épreuves d'aujourd'hui, les épreuves de cette année, qui vont venir l'année prochaine, en gardant les yeux fixés sur toi, parce que tu es notre espérance, et nous savons que tu es bienveillant et que tu nous aimes. Béni soit ton nom. Amen.